Pour les 25 ans de PHP, les 20 ans de la FUP, Forum PHP qui aura lieu les 22 et 23 octobre à Paris et l'arrivée de PHP 8, nous voulions faire une émission exhaustive sur le langage PHP. Le sujet étant éléphantesque, nous le traitons en deux parties et vous écoutez la deuxième. Nos invités pour en parler sont Stéphanie Trubtel, développeuse senior en PHP, membre de la FUP Toulouse, trolleuse patentée en télétravail sur Slack, et Romain Moreau, développeur PHP sur Symfony, coordinateur à la FUP Toulouse et amateur de métal, noise, grind et barbone. CPU, carré et petit utile. Romain Moreau, j'ai déjà posé cette question à Stéphanie, je vais la poser à toi. Comment tu es venu à la programmation ?
Oula. Comment je suis venu à la programmation ? Je pense que j'avais 14-15 ans, où j'avais un très bon ami qui à l'époque était déjà féru, très très féru d'informatique, et donc à l'époque il bricolait sur du QBasic. Donc il m'a montré, il m'a montré 2-3 trucs assez rigolos qu'il faisait avec. Donc c'est là que j'ai commencé en faisant des bêtises, des hello world, des petits trucs, des petits calculs mathématiques assez simples. Mais donc c'est parti là. Et après j'ai vraiment commencé les choses sérieuses un petit peu plus tard quand j'étais au lycée. Enfin, quand je dis sérieux, c'était pas très sérieux au début, c'était des petits sites en clicodrome, on va dire, à l'époque des hébergeurs qui permettaient de le faire. Et le PHP dans la foulée, où ça a vraiment pris son sérieux quand je suis arrivé à Toulouse pour les études d'informatique, donc UT, BTS, il y a maintenant presque, c'est en 2009, donc il y a 11 ans. Et voilà, donc j'ai commencé directement. Les premiers c'était du C, C++ que j'ai vu, et après il y a le web qui m'a fait quelques clins d'œil, donc j'ai commencé avec PHP et je l'ai plus jamais lâché.
Ah mais je viens de tilter, vous m'avez ramené un petit jeune là.
Oui, moi ça fait pas très longtemps que je suis dans le métier, ça fait pas très longtemps, ça fait 10 ans, tout est pour tout quoi.
Stéphanie, Romain, quand vous voyez des CV de développeurs qui se vantent de connaître le langage PHP à 70%, quelles questions vous trouverez marrantes à leur poser pour voir si vraiment ils ont compris ce que ça voulait dire, le pourcentage de connaissances
d'un langage ? Je ne sais même pas ce que représente 70% du langage. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est pourquoi il y a 30% du langage qui est quand
même. Oui, c'est ça.
C'est 30%.
À partir de quel moment on peut fixer un pourcentage comme ça ? Enfin, y a trop de choses à voir, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire qu'on maîtrise un langage avec X pourcentage. Enfin, c'est compliqué. C'est comme les mecs qui se prétendent experts avec quelques années d'expertise. Enfin, avec quelques années de travail et j'ai beaucoup de mal avec ça quoi.
Senior après un an
ouais, c'est pareil quoi. Il y a tellement de choses à voir que j'ai du mal à concevoir.
On peut concevoir qu'ils soient senior après un an puisqu'ils ont plus besoin du lait maternel mais... Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de CV, quel est le niveau de salaire d'un développeur PHP à expérience équivalente par rapport à notre langage informatique ?
Oula.
Est-ce qu'on est mieux payé en faisant du PHP qu'en faisant d'autres langages, ou est-ce que c'est moins bien ?
Non, mieux payé, non. À titre d'exemple, enfin, à Paris, j'en sais rien, mais en tout cas à Provence, aujourd'hui, il vaut mieux faire du JS que du PHP, par exemple, si on veut chercher que la paye. C'est sûr. Et si on veut chercher la hype aussi un petit peu. Je vais pas commencer à troller là-dessus parce que ça peut être très long et j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Mais non, PHP, c'est pas forcément ce qui gagne le mieux. C'est pas forcément ce qui est le plus recherché aussi aujourd'hui dans les technologies d'avenir. Si on compare du Go à du Rust, à des choses qui sont vraiment en train de monter à fond la caisse, non, on n'est pas les mieux payés.
Quand Facebook, qui était écrit en PHP, a lancé Hack, donc à l'origine des optimisations autour du langage PHP pour leur propre compilateur, et qu'ils ont fini par forquer pour faire leur propre langage, est-ce qu'on n'a pas eu un risque d'exploser la communauté ? Des gens qui sont tournés vers HHVM, justement ce qui allait être Hack.
La communauté, de fait, s'en sont éloignés, vu qu'après PHP, ils ont abandonné, ils ont inventé Hack, qui est censé être le concurrent direct de PHP. Et ils ont abandonné HHVM PHP au profit d'HHVM Hack. Donc,
Il y a beaucoup de développeurs sur Toulouse que vous connaissez, qui sont pas... Enfin, est-ce qu'il y a des développeurs que vous connaissez qui sont passés sur Hack ?
Non, pas. Moi, personnellement, j'en connais pas.
Même pas surtout.
Ou en tout cas, ils n'en parlent pas.
Le projet est censé être open source, donc a priori, n'importe qui peut s'en servir.
A priori, oui. Mais Je sais pas, je sais même pas si ça a trop, c'est trop sorti des frontières de Facebook en fait, si c'est beaucoup utilisé ailleurs. J'ai aucune idée de la question.
On parlait de communauté, donc quand est-ce qu'a été créée l'association de la communauté, la FUP ?
Alors la FUP, association francophone des utilisateurs de PHP, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux et celles, ça a été créé il y a à peu près 20 ans. Donc à l'époque c'était à Paris il me semble, et donc l'idée c'était de faire une émulsion entre les développeurs PHP en proposant des meet-up assez réguliers pour faire des conférences, pour proposer des échanges, des codings de jeux, des ateliers sur PHP comme fil rouge. Et puis ça s'est développé dans plusieurs villes. Aujourd'hui il y a 15 villes qui sont concernées, enfin 14 villes plus Luxembourg. L'idée reste la même, c'est de forcer le côté communautaire, de faire des rencontres entre personnes du métier, de dialoguer autour de notre langage préféré, mais ça fait 20 ans que ça dure aujourd'hui.
Et tu as bien fait de préciser francophone.
Oui.
Il y a des nouvelles du Québec ou surtout de l'Afrique francophone, parce que là aussi il y a pas mal de développeurs.
Alors autour de la FUP, pas que je sache. Après je suis pas en relation directe avec des gens du Québec ou de l'Afrique, donc je sais pas.
D'accord.
Mais j'ai bien dit oui, francophone effectivement, parce que on peut citer le Luxembourg, c'est pas.
Donc si par hasard il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des infos de ce côté-là, n'hésitez pas à laisser les commentaires sur la page web de l'émission cpu.pm/0146.
S'ils sont motivés à l'idée de créer une antenne à FUP à l'étranger francophone. Je pense qu'il y a des gens à qui ça fera plaisir. Ouais.
On a un Slack.
On a un Slack pour ça. Ouais. On a un Discord aussi depuis peu où on peut dialoguer là-dessus. Donc,
Et en soit, la FUP, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font surtout... ils vendent des éléphants en peluche. ils organisent le PHP Forum à Paris.
Ils organisent le PHP Forum.
Il y a quoi d'autre en fait derrière ?
Qui est en ligne cette année.
Oui, c'est ça. Le PHP Forum qui sera en ligne du coup, vu le contexte. À une époque, ils organisaient le PHP Tour aussi, qui a été remplacé par la FUP Day. Donc le format est quelque peu différent, sachant que le PHP Tour, c'était, ils faisaient vraiment une tournée dans chaque ville de manière régulière. La FUP Day, c'est sur une journée et c'est dans plusieurs villes en simultané. Donc la première édition, c'était sur 4 villes. Cette année, c'était 4 ou 5 villes aussi. L'an prochain, on verra. Sachant que cette année, du coup, c'était aussi en ligne. Mais la FUP, c'est principalement l'organisation de ce genre d'événements pour promouvoir PHP, son écosystème, des métiers qui sont rattachés aussi. Et donc ça, c'est au niveau national et au niveau local. Donc on a, comme je l'ai dit, dans 15 villes différentes, une fois tous les mois, tous les deux mois, des team meet-up qui sont organisés, qui réunissent, ça peut aller de 10 à 80 personnes en fonction des villes. Et on essaie de proposer des formats un peu différents, des conférences. Ça peut être des conférences pour évidemment tout niveau, de débutants, experts, intermédiaires, ou ça peut être des codings, ce qu'on appelle des codings dojo. Donc ce sont des ateliers où on arrive avec un sujet donné et on a 2 heures par petit groupe de 3 ou 4 personnes pour proposer une solution et développer sur le sujet donné. Et donc ça fait des petits défis entre équipes. À la fin, celui qui a le résultat le plus probant fait une présentation aux autres, et ça permet d'échanger des techniques, de faire des rencontres aussi de développeurs qui ont des choses intéressantes à dire mais qui n'osent pas forcément les dire. Il y a plein de gens qui font du PHP, il y a plein de gens qui ont peut-être des choses à dire intéressantes et qui osent pas. Et on essaie de forcer un petit peu cette émulsion, voilà.
Point important quand même à préciser, il n'y a pas besoin d'être membre de la FUP pour aller à la plupart de ces événements.
Non, pas du tout.
Il y a combien de membres actuellement ?
Des membres au niveau national, je sais pas. Dans le groupe Meetup Apéro PHP Toulouse, on est un peu plus de 700. Donc on aimerait bien que ces 700-là viennent à ces événements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je sais pas, mais je pense que ça se compte en milliers au niveau national. Le nombre de membres de la FUP. J'ai pas le chiffre exact en tête, donc je vais pas avancer de chiffre pour pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est assez beaucoup quand même. Et non, on n'est absolument pas obligé d'être membre de la FUP pour assister à ces événements.
Non,
absolument pas.
On n'est pas obligé de faire du PHP.
Non, pas du tout. On a régulièrement des gens qui viennent et qui font du JS ou du Python, qui viennent voir par curiosité ce qu'on propose. Il y a même des gens qui sont en reconversion professionnelle totale. Il y a pas longtemps, on a eu un monsieur qui était EDF de électricien de profession, et qui pour s'amuser bidouillait son site web et qui est venu voir ce qu'on proposait aussi. Donc on n'est même pas obligé de faire du PHP pour venir.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons du futur du langage PHP avec Stéphanie Trumtel et Romain Moreau. On a parlé de PHP 6 dans la précédente émission, la semaine dernière, qui est une tentative de majeur qui n'a jamais abouti. PHP 7 est-il la rédemption de PHP 6 ou est-ce qu'il a amené ce qui était prévu par petites touches?
Oh non, c'était une révolution. Il y avait du typage, enfin. Et oui, non, ça a été déjà des performances améliorées. Du typage. Mm-hmm. Et puis c'était un peu un choc culturel, je dois dire. Parce que ça a beaucoup modifié les habitudes de code. Les gens qui renvoyaient n'importe quoi.
This, nul, booléen,
non, c'est
string,
que on sait pas ce que ça renvoyait, donc après faut tester. Enfin bon, ça change complètement la façon de coder, donc
c'est bien. Le fait de pouvoir déclarer strict type égale 1 en début de script, ça a changé beaucoup de choses.
Oui, c'est pas mal. Et niveau de la sécurité.
Ouais.
Et du coup, que cela soit clairement arrêté par le langage et pas par une construction externe, quoi.
Oui, par les commentaires. Oui, tout à fait. Honnêtement, tous les devs qui sont passés dessus, ils étaient contents. En général, ils veulent pas revenir en arrière.
Et en soi, quels sont les objectifs de PHP 6 qui ont clairement et définitivement été terminés et n'ont pas été intégrés?
L'Unicode. On n'est pas prêt de le voir revenir, celui-là.
Non,
enfin, une partie de l'Unicode, quoi.
Oui.
Certaines déclarations.
L'intégration complète et qui est morte pour quelques années, ouais, je pense. Non, PHP 7, après, on a eu aussi un énorme gain de performance.
Oui.
Qui a été encore aussi un peu plus flagrant entre la 7.0 et la 7.2. On a fait quasiment x2 sur certains temps de calcul, donc ça, c'était fou. La syntaxe qui est un peu plus riche aussi. C'était un changement assez radical. Et qui sera peut-être encore un peu plus radical avec le 8 qui va venir.
Alors, PHP 7 est arrivé en 2015, 5 ans après. Donc, on arrive à la sortie de PHP 8. Mmh. On en est actuellement, je crois qu'on en est sur la deuxième bêta, c'est ça? Avant la release?
C'est la release candidate? Non, c'est la release candidate 2, je crois.
Qu'est-ce que promet PHP 8? Quelles sont les évolutions majeures qui sont déjà annoncées?
C'est la compilation JIT, Just in Time, qui est la dernière amélioration qu'ils peuvent faire, en fait. Toutes les optimisations ont déjà été faites. Donc celle-là, ça permet des gains de performance, mais sur certains types de code, bien entendu, qui sont pas forcément dans les usages les plus habituels de PHP, c'est-à-dire qu'il y aura pas forcément des améliorations flagrantes sur les performances pour les sites web. C'est bouleversant quand on fait des fractales, mais bon, ça sert pas très souvent en PHP. Après, l'intérêt, c'est que ça peut ouvrir le PHP à d'autres usages qui sont pas développés actuellement. Par exemple, je sais pas, du machine learning, des trucs comme ça.
Coder des bouts du kernel Linux avec, faire l'IoT, envoyer des SMS.
Pourquoi pas.
On a quelques librairies de machine learning qui commencent à émerger. On a depuis, ça existait déjà sur PHP 7, mais ça va peut-être commencer à s'accélérer aussi sur pour faire du...
De la synchrone.
De la synchrone, voilà.
D'accord.
Avec des...
Ah, c'est vrai qu'il y avait Async Await qui était arrivé avec PHP 7.
Il y avait Async Await, il y a des librairies comme React PHP, AMP PHP, Fiber.
D'ailleurs,
AMP PHP. D'ailleurs, oui, Fiber, à un moment donné, il y avait des gens qui avaient demandé, qui avaient levé une RFC pour que ça soit intégré en natif dans le langage. A priori, c'est...
C'est pas été fait.
Ça a pas été fait, mais ça arrive. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On va pouvoir commencer à faire de plus en plus de choses assez intéressantes avec.
Ah, parce que jusqu'ici c'était pas intéressant.
Encore plus, je veux dire.
D'accord. Merci Romain pour cette précision. On ne sait jamais. Ça peut être dangereux quand même, si jamais on ressort cette interview plus tard. Faudrait-il sauter immédiatement à la version PHP 8 ou attendre un numéro de version précis pour se dire bon, ça va, là elle est assez stable, on peut y aller. Numéro de version PHP 9.
PHP 9, ça va pas être pour tout de suite.
Non, déjà on va laisser PHP 8 arriver, puis on va attendre 3-4 ans avant que...
Parce que moi je me souviens que PHP 5, il a fallu attendre la 1.2 pour arriver à avoir pas mal de corrections de bugs et tout ça. Ce sera intéressant d'aller direct en prod en PHP 8 où il vaut mieux surveiller ou les faire tourner à la limite sur des environnements de qualif, ce genre de choses.
Les faire tourner en prod, c'est peut-être un peu risqué, mais...
Bon, pour la version stable, je pense pas, mais surtout, par exemple, pour PHP 7.0, elle a pas vraiment d'intérêt. Enfin, elle est bien, mais si on veut vraiment utiliser le typage, il faut attendre la 7.1, puisqu'il n'y a pas de void sur la, sur la 7.0.
Oui, donc comme c'est de toute manière, toute version, on attend la X.1 pour que les premiers retours de prod soient effacés. Donc on verra effectivement...
Il vaut mieux attendre la 8 hein, ouais, pour passer en prod.
On va attendre courant printemps 2021 pour faire des choses très très sérieuses en prod avec, peut-être.
PHP, on l'a dit la semaine dernière dans CPU, a une réputation de langage lent, et je mets des guillemets au mot lent, hein, parce qu'il n'était pas au départ un langage interprété. Donc qu'en est-il aujourd'hui, notamment avec le JIT, qui va, ça vient compléter un petit peu aussi le côté serveur d'application.
Même avant ça, il n'est pas plus lent que les autres.
Ouais, c'est ça. C'est, avant de dire que PHP est lent, il faut d'abord essayer de faire du Python. Après, on en reparlera. J'ai vu
un benchmark avec Node.js, PHP est meilleur, donc...
Voilà, et puis PHP 7 a déjà réglé beaucoup de problèmes de performance, donc on a quelque chose qui aujourd'hui, sans dire que c'est un foudre de guerre, c'est quand même assez rapide, assez robuste. Et effectivement, le JIT, il va essayer... Alors les premiers tests n'étaient pas extrêmement probants, mais une fois que ce sera bien stable et bien en place, oui, mais du coup, on va passer sur de la semi-compilation, donc ça va être... c'est sûr que le gain de perf va être non négligeable.
Le JIT, donc le processeur la compilation just in time, c'est-à-dire au moment avant le temps d'exécution plutôt qu'interpréter ce qui se faisait jusque-là, ça veut dire aussi qu'il faut programmer d'une manière différente sur les inclusions système et tout ça. Il vaut mieux un seul point d'entrée PHP pour par exemple son site web où ça continue à marcher à plusieurs. Il y a des astuces en termes de programmation qui font que ça devient vraiment intéressant.
En soi, j'ai pas regardé. C'est intéressant pour certains types de code, c'est sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est pas forcément intéressant pour des sites web qui sont exécutés qu'une seule fois.
Oui, c'est plus pour du calcul lourd, pour le gros appli web avec un gros calcul mathématique ou scientifique, ce genre de choses.
Parce que, sauf erreur de ma part, je crois que le PHP, d'ailleurs depuis PHP 3, hein, il me semble, il y avait un pseudocode qui était généré. C'était le ZendEngine qui faisait ça.
C'est l'OP cache qui était activé. Il est activé par défaut en PHP 5, sur toutes les...
Oui, donc PHP est interprété en OP code. Donc lui, il est mis en cache.
Il est mis en cache dans le moteur. Ouais,
Donc il y a déjà effectivement une semi-compilation qui est faite dans l'interpréteur, dans le moteur.
On pouvait accélérer en récupérant l'OP code pour l'exécuter directement, non?
PHP 3, je sais pas, je peux pas me prononcer.
Non, ça y était pas.
Non, mais je veux dire, après, on pouvait le faire jusque-là, jusqu'à l'arrivée de PHP.
On pouvait bidouiller pour le faire, mais maintenant c'est fait par le moteur.
D'accord.
Oui, l'OP code est activé par défaut, l'OP cache, donc.
Depuis la
7, maintenant l'OP cache est activé par défaut, donc c'est en partie ce qui explique les gains de performance. Voilà.
C'est ça, oui. Donc, puisqu'on parlait un petit peu de ces temps anciens et horribles, dignes d'un conte de Lovecraft, vivent lointains dans les bibliothèques, dans une lointaine...
Nyarlathotep, si tu nous écoutes. Hein.
Bon, on va pas revenir sur cet écrivain raciste. Mais pendant très longtemps, le motto de PHP était de garder la compatibilité avec PHP 3 pour permettre justement à l'ensemble de l'écosystème de pouvoir... monter en version le langage du moteur sans trop perdre. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a des portions du langage qui sont supprimées? On a parlé donc de MySQL Connect, du moteur EREG et tout ça.
PHP 3, ça fait longtemps que plus personne s'en soucie. Hein.
Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres... PHP 8 va encore abandonner d'autres portions de code qui ne sont plus utiles?
Je crois qu'ils abandonnent rien de majeur.
C'est juste un gros lot de dépréciation de PHP 7.
Il y a des déprécations, oui.
Après, il n'y a pas d'abandon pur et radical, non.
Et qu'est-ce qui était abandonné dans PHP 7, a priori? enfin déprécié dans PHP 7.
Certaines fonctions sur les strings, il me semble, qui sont abandonnées. Mais de mémoire, je ne sais plus lesquelles.
Oh, moi non plus, il faudrait. Bon, bref, le détail,
on n'en saura pas plus sur les strings. On est à poil tous les trois, je crois.
Ouais, là tu veux.
Voilà.
Surtout que c'est pas comme MySQL, les fonctions MySQL. C'est des petites fonctions à droite à gauche. Ouais.
Et justement, sur les connexions directes avec les moteurs de base de données, il y a des améliorations de ce côté-là ou ça reste as usual finalement? Les PDO font bien leur boulot, il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
Ça marche bien. Hein.
Les PDO font déjà leur boulot depuis longtemps. Donc,
Avec une gamme de bases de données compatibles,
oui,
phénoménales.
Du coup, du MySQL, du SQLite, du Postgre maintenant, du Oracle, du.
Tout ce qui existe.
Même MySQL Server, oui. Quoi. Tout ce qui existe, comme tu dis. Voilà.
PHP 5.6 avait amené le serveur d'application. Ce qui existait, un concept qui existe dans d'autres langages, puisque là, en fait, chaque fois qu'on appelait une page web, le serveur web faisait appel à PHP qui rendait en fait un programme neuf à chaque exécution de page. À partir du serveur d'application, c'est un service d'application, oui, littéralement en PHP, ce qui permet aussi certaines optimisations. Actuellement, on a combien de manières d'appeler PHP à partir d'un serveur web? Parce que je crois qu'il y a du FastCGI, il y a du Shell, il y a le FPM, il y a. C'est pas un peu le bordel parfois?
Comme une version, on va dire des versions majeures, il y en a effectivement. Comme tu dis, trois, il y a le FastCGI, il y a le FPM aussi. Donc, non, il n'y en a pas tant que ça non plus. Mais ce qui ressort de plus en plus, en tout cas, de ce que j'ai l'impression, effectivement, c'est du FPM. Où on a effectivement, on sort du mode. À l'époque, c'était Apache avec le lib mode 2 Apache PHP, où on avait toujours un process PHP qui était à l'écoute de tout et n'importe quoi. Et ce qui faisait qu'on avait un processeur qui était toujours bloqué, enfin un process qui était toujours bloqué.
Mais du coup, on pouvait par exemple faire de l'événementiel. On peut faire justement les connexions persistantes et jouer avec.
Oui, du coup, oui, mais au-delà de ça, en fait, du coup, on est passé maintenant plus sur un mode PHP, donc qu'on appelle FPM, où on va dire qu'on a un processeur, un process qui est dans un coin et qui n'est appelé que si jamais il y a vraiment du PHP qui a besoin d'être interprété. Donc c'est ce qui revient de plus en plus aujourd'hui. Donc Apache a tendance à être, j'ai l'impression en tout cas, un petit peu délaissé au profit d'Nginx sur des grosses applications. Sur des choses qu'on a envie de rendre un peu plus, comme on dit, scalable.
Je crois même que c'est le mois dernier où les parts de marché d'Apache ont plongé sous celles de Nginx sur le nombre de serveurs web servis.
Après, Apache reste encore, faut pas non plus cracher dessus, ça reste encore très très utile pour beaucoup de sites. Il y a encore plein de choses qui tournent dessus et qui marchent très bien, mais je pense que c'est vrai, effectivement, si on a. Donc, Apache, on faisait effectivement à l'époque pas mal de phases CGI avec Apache surtout. Si aujourd'hui on a un vrai besoin de performance, on a besoin de disponibilité ultra rapide, effectivement c'est Nginx qui est plus appelé avec le fameux mode de fonctionnement PHP, FPM. Voilà. Donc c'est la tendance qui accélère de plus en plus. Ça se dit pas ça. C'est la tendance du jour, on va dire.
La tendance qui accélère.
Voilà, qui accélère. Ça sera coupé au montage, vous inquiétez pas.
Non, pas du tout.
Et zut.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous parlons du futur du langage PHP avec Stéphanie Trumtel et Romain Amoreau. Et notamment la question de savoir s'il faut passer le serveur .clear du site cpu.pm sur PHP 8. PHP 8 qui arrive donc. Quelles sont les nouveautés que le peuple des devs PHP piaffe avec impatience à mettre en prod?
Alors, on a parlé de JIT et on a surtout les Union Type qui permet alors.
Union? Un syndicat derrière?
Ça permet de typer sur deux, ou plusieurs d'ailleurs, plusieurs types différents.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, on a une variable qui au cours de sa vie peut
c'est
prendre plusieurs.
Dans la signature d'une fonction, on lui dit c'est un int ou un float ou un string. Je trouve ça un peu bizarre, personnellement. Voilà, c'est une demande qui a été faite et qui est attendue.
D'accord, donc ça veut dire que la variable qu'on passe en paramètre est moins stricte.
Elle pourra prendre plusieurs types
en entrée.
De la même manière, du coup, il y aura ça aussi en sortie.
Ouais, j'imagine que ça doit faire râler quand même pas mal de gens qui sont dans les trucs stricts. Le genre de mec à tout mettre en private dans leur méthode de classe, sauf la fonction init.
Bah, typiquement, si on veut envoyer un entier, mais qu'on le passe entre parenthèses, c'est plus du tout. Enfin, si on envoie parenthèse, parenthèse, dièse, enfin 10. Mm. Voilà, donc là, on va mettre. Est-ce que ça peut être un int ou un string. Donc, effectivement, il va falloir peut-être rajouter une petite couche de contrôle, nous, en tant que développeurs, à l'intérieur de la fonction, pour vraiment être sûr de ce qui se passe à l'entrée, quoi.
C'est un peu un retour en arrière, je trouve, mais bon.
Ouais. Je trouve, par contre, qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est les paramètres nommés. Mm. Chose qu'on retrouve, entre autres, en Python et en Java, si je me trompe. Ce qui permet de se passer des paramètres positionnels, c'est-à-dire le premier, c'est l'aiguille, le deuxième, c'est le tas de foin. Non, je sais plus lequel c'est. Là, il suffit de nommer Needle et Graystack.
Oui,
et
comme en Python, c'est pas mal.
Est-ce que ça va marcher sur l'ensemble des fonctions système, l'ensemble des fonctions proposées par PHP d'entrée ou seulement certaines pour l'instant?
Non, je pense que c'est pour les fonctions utilisateurs essentiellement. Mmh. Et les fonctions système, je pense pas, parce qu'il y a des paramètres qui sont pas optionnels ou. Faut que ça s'harmonise avec le reste du langage. Donc, non, c'est pour les fonctions utilisateurs surtout.
Il y a quand même, au fur et à mesure qu'on a les nouvelles versions de PHP, il y a beaucoup de sucres syntaxiques, de nouveaux opérateurs, comme le Elvis Operator, par exemple, point d'interrogation de point, ou d'autres. C'est pas le bazar, des fois, pour s'y retrouver?
Oui, comme... oui, il faut le temps de les apprendre, bien sûr.
J'imagine que les IDE doivent pas toujours être systématiquement à la page, quoi.
Alors, PHP Storm, ils sont à la page.
Ah bon? Je pensais à lui, je pensais que c'est...
Très rapidement.
Ah oui.
Ah ouais, c'est...
Il sera peut-être même à la page avant même que... Enfin, le module, en tout cas, PHP sera à jour.
Tu veux dire que JetBrains est capable d'être plus rapide que leur propre logiciel pour démarrer?
Alors, on n'en est pas là, mais... mais mais
Java, quoi.
Probablement, avant que PHP 8 sorte de manière stable, on pourra déjà faire du PHP 8 dans les deux, parce que PHP Storm sera fait le module, en tout cas, sera déjà à jour. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Il y a Nicolas Popov qui a rejoint l'équipe de PHP Storm, justement.
Donc, il sera encore
2019.
Plus à jour, en fait.
D'accord. Ils le sauront avant tout le monde, ce qu'il va y avoir.
Je ne sais pas si d'autres IDE comme NetBeans ou autres arrivent à suivre, mais en tout cas PHP Storm, il n'y a pas de doute, on pourra en faire très rapidement.
Nicolas Popov, qui est...
C'est un des core contributeurs de PHP.
D'accord, ok. Donc, on parlait plus ou moins de bazar avec toutes ces nouvelles notations, tous ces nouveaux opérateurs dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le drama sur les déclarations d'attributs?
Alors, je n'ai pas tout compris, hein, je dois bien l'avouer.
Parce que moi aussi, j'ai essayé de m'y mettre du coup sur la propre recommandation. Et on mettra la référence sur la page de l'émission.
La RFC des attributs a été acceptée à l'unanimité largement au premier vote. Et avec la syntaxe deux fois inférieure, deux fois supérieure. Et il y a quelqu'un qui a trouvé que ça avait l'air lourd, donc ils ont proposé une autre RFC où il y avait le choix entre plusieurs syntaxes. Ils ont voté pour accepter je ne sais plus quelle syntaxe, puis après il y a eu une autre, le vote a été annulé. Ils ont refait une RFC pour rechoisir une autre syntaxe entre trois possibilités, qui était encore annulée, je crois. Et là, j'ai laissé tomber l'affaire. J'attends qu'ils se décident et on verra.
Parce que moi, je me souviens de comment Adrien Lano a hurlé. Alors, Adrien Lano, qu'on a reçu dans cette émission, combien il avait hurlé sur l'usage de l'anti-backslash pour les classes, je ne sais pas.
Les namespaces.
Il n'avait pas du tout aimé. Il disait c'est une attaque contre les développeurs qui utilisent l'AZERTY et tout ça. Est-ce que bientôt on va devoir utiliser, je sais pas, le point d'interrogation turc qui ressemble à s'y méprendre à un point virgule ou je ne sais quelle autre fantaisie typographique utilisée dans une langue amérindienne?
On n'aura peut-être pas ce genre d'extrémité.
Le problème, c'est qu'il faut se mettre d'accord entre le parseur et les utilisateurs, quoi. Il y a déjà pas mal de signes qui sont utilisés, notamment il y en a qui avaient proposé l'arrobase comme
Ça ne l'est pas, parce que oui, effectivement.
Mais
ça.
C'est déjà utilisé, donc ça
non,
va pas.
Non, tel syntaxe, ça ne nous va pas, parce que ça me rappelle tel langage. Tel syntaxe, ça ne nous va pas, parce que c'est trop dur à retenir. Enfin,
non, c'est bon.
C'est une espèce d'arlésienne qui dure depuis plusieurs semaines, voire mois maintenant. Et...
Non, il faut que ce soit surtout compréhensible par le parseur, parce que sinon...
On verra comment ça aboutit, mais bon.
Mais c'est bizarre, parce que d'habitude, les conflits se règlent assez d'une façon assez civilisée, on va dire.
Oui, c'est un langage qui est plus issu de l'Europe que des États-Unis. Non, blague sur les conflits. Enfin, bon, on va pas discuter du port d'armes maintenant. Sur les évolutions qu'amène le PHP 8, y a-t-il des attentes de développeurs qui ne sont toujours pas attendues ? Des choses qu'ils auraient aimé avoir ? Des outils qui leur manquent ?
D'une manière globale comme ça, il n'y a pas vraiment de sondage. Donc,
peut-être un typage strict en natif. Oui. Mais qui est en train d'arriver du
pour
coup.
Pour l'instant,
donc,
c'est pas en natif le typage strict
Pas exactement. Non. On peut préciser maintenant des typages sur les attributs. Donc,
Oui.
Voilà,
mais on n'est pas obligé.
Mais on n'est pas obligé. C'est peut-être ça, je pense, qui aujourd'hui est le plus demandé. C'est d'avoir quelque chose de, par défaut, de très très robuste.
Parce que justement, de ce que j'avais lu dans JavaScript, les moteurs JavaScript avaient énormément gagné en efficacité quand on activait le typage dans les variables et tout ça.
Bah oui, parce que du coup, le typage du coup n'a plus à être fait totalement en dynamique au moment où la page est interprétée. Donc il y a ce travail qui mine de rien assez lourd qui n'est plus fait. Donc voilà, donc on est toujours sur du typage
à la bonne volonté.
On est toujours sur du typage dynamique relativement faible par défaut. On a tendance à arriver sur du typage dynamique fort du coup, mais voilà, pour en revenir au-delà de la demande, je pense que le jour où ça sera vraiment natif dans le langage, où on écrira des jolis public int, le nom de la variable, ou public string, ou private, hein, si vous voulez pas. Mais peu importe, mais non, je pense que ce sera une vraie avancée pure et dure. Vraiment. Et moi, personnellement, je l'attends beaucoup celle-là.
Moi aussi.
Voilà. Ça va permettre de mettre plus de cadre dans le code qu'on écrit, ne serait-ce déjà ça. D'être plus sûr sur ce qu'on veut envoyer en entrée ou en sortie, ou avoir en retour des fonctions. Ça va régler plein de problèmes. Voilà. Et effectivement, au niveau du runtime, le langage n'aura plus à calculer si cette variable c'est une string ou un int ou un objet ou autre chose. Donc il y aura aussi un gain de performance là-dessus. Parce qu'on aura plus de travail à faire.
Voilà. Le problème, il vient de la compatibilité du vieux code et.
Oui, pour l'instant, on garde ça pour faire des transitions un peu plus douces. Et oui, parce que du coup, ce changement sera ultra radical. Quoi. Il y aura une vraie coupure avec les versions, avec des versions 5 qui doivent tourner encore. Là, il faudra tout typer en amont pour pouvoir l'adapter au 8. Et, enfin, ouais. Du coup, ça sera peut-être dans le 9 en natif, on verra, ou dans une 8.2 ou 8.3. Mais du coup, le changement sera très radical, c'est sûr.
Stéphanie Romain, donc vous êtes animateur au sein de la FUB Toulouse. Alors au moment où on enregistre, on est le 9 septembre et je crois qu'il y a un renouvellement qui est prévu prochainement au sein de l'association, courant de ce mois-ci.
Alors le prochain meet-up est prévu le mardi 22 septembre, la cantine au Buisson, merci de nous accueillir, si nous écoutent. Et effectivement, pendant la soirée, il y a la fameuse élection des représentants du bureau de la FUB Toulouse. Qu'on aurait dû tenir en juin, mais qu'on n'a pas fait parce que parce qu'on préfère la faire en présentiel et que c'était pas possible à ce moment-là. Donc voilà, il y aura a priori l'équipe en place et motivée pour renouveler encore au moins une année. Donc on verra ce soir-là. Et en courant de cette soirée, il y aura aussi du coup justement on parlait de PHP 8. Il y aura un sujet présenté sur toutes les nouveautés de PHP 8, un peu plus approfondi que ce qu'on a pu faire maintenant.
Par l'un de vous deux, ou Franck, ou quelqu'un qui a mieux bossé, d'accord. Ok. D'accord, c'est Stéphanie qui a levé le doigt, voilà, je la dénonce. Mais entre-temps, voilà, vous aurez pu si vous avez assisté à cette soirée ou si vous regardez la vidéo qui sera mise en ligne, je suppose, vous pouvez alors, en profiter
c'est,
pour alors, voir l'évolution,
c'est pas
puisque
dit que
l'émission sera diffusée mi-octobre.
Voilà, non, après la soirée en soi ne sera pas filmée, donc il n'y aura pas de...
Il faut être là.
Il faut être en présentiel, voilà.
D'accord.
Alors okay. C'est compliqué de dire il faut, vu le contexte autour, mais voilà, on a fait cette soirée, on a on a voulu être présent justement pour le bon déroulement de ces élections.
Ok.
Oui, c'est plus facile d'expliquer les modifications oui. avec des visuels.
Et à quoi s'attendre au PHP Forum à Paris
À une édition.
Enfin, qui sera en vidéo du coup.
À une édition en ligne déjà.
Oui.
Je sais pas.
Déjà, elle sera accessible pour toutes les bourses a priori.
Oui.
Oui, tout à fait. Les vidéos seront remises sur YouTube. Donc tout le monde pourra y avoir accès. Après, à quoi il faut s'attendre? Je sais pas, il y a plein de conférences qui ont l'air méga intéressantes. Il faut s'attendre à une bonne édition. Du coup, un peu atypique de par son format, mais quelque chose de sérieux et de. Sérieux, intéressant et éducatif comme d'habitude.
D'accord. Et pour la suite, sur la FUP Toulouse, il y a des programmes déjà qui sont prévus pour octobre, novembre, décembre.
Alors, l'an dernier, on était sur une fréquence d'une soirée tous les mois et demi. Mmh. En tout cas, on essayait. Là, on va voir comment les choses évoluent, mais a priori, après le meet-up de septembre, on va essayer de. Enfin, j'ai envie en tout cas d'en faire un courant de novembre, peut-être novembre-décembre. Et on verra l'an prochain comment ça se passe. C'est en fonction aussi des speakers qu'on arrive à avoir.
Je
des
crois
salles.
Que vous avez toujours l'appel à speaker qui est ouvert. Oui.
On a un appel à speaker qui est ouvert tout le temps. Il y a plein de gens qui ont peut-être des choses intéressantes à dire, on n'en doute pas. Peut-être qu'il y en a plein qui osent pas le faire, ça c'est notre souci. Mais si c'est le cas, nous on peut les aider. On a au sein de la FUP, au sein des bénévoles, des gens qui viennent régulièrement, pas mal de gens qui ont l'habitude de parler. Donc on est capable de leur donner des conseils, ne serait-ce que sur les présentations, sur les manières de créer les supports, pour faire plein de choses pour l'organisation. Donc on peut les accompagner assez facilement, mais toujours faut-il qu'ils aient envie de le faire. Voilà. Mmh. Ce qui n'est pas très évident. Il y a plein de gens qui font du PHP à Toulouse. Ça se ressent pas forcément dans les affluences qu'on arrive à avoir. Donc voilà, on essaie de pousser cette émulsion et s'il y a des gens comme Zendead, on est à même de les aider. Mais voilà, faut qu'ils le veuillent aussi.
On m'a dit qu'à Toulouse, il y avait en proportion moins de développeurs PHP que dans d'autres villes comme Lyon.
À Toulouse, il y a surtout des développeurs Java.
Java, oui.
Beaucoup de Java, oui. Mais ça se ressent du coup aussi sur les meet-up.
Ce qui paraît, c'est à cause de l'aéronautique. Heureusement, ils bossent pas chez Boeing. Désolé.
Non, c'est rien.
D'accord. Stéphanie, Romain, merci beaucoup d'être venu pour
merci
parler.
De l'invitation.
Donc, et du coup, vous allez faire une fête pour, vous allez faire une install party pour PHP 8. Ouais, chez moi ça marche ou.
Ouais,
ou
sûrement ça.
PHP info parenthèse.
On va sûrement faire des POC chacun de notre côté et puis on va se dire.
Il y a des
ouais,
dockers.
T'as vu ça, t'arrives à le faire marcher ça chez toi? Ben ouais, non, je sais pas, moi oui, mais on verra comment ça se passe. Mais ça sera probablement un grand coup d'essayer d'échanger sur Slack, d'échanges plus ou moins passionnés ou enflammés et puis non, ça va bien se passer.
Romain Moreau, Stéphanie Trumtel, merci beaucoup.